Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Et l'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Marion et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, l'Inter Milan n'avait aucune chance. C'est un PSG déchaîné qui a été décroché sa première Ligue des Champions hier, victoire 5-0 avec un premier but signé Achraf Hakimi pour le plus grand plaisir des supporters marocains, vous l'entendrez.
Et cette finale de la Ligue des Champions, on y revient aussi dans 30 minutes. Édition spéciale juste après le journal de 8h heure de Paris.
Malgré la fin de l'ultimatum hier, les employés chinois de la CNPC présents depuis plus de 4 ans au Niger ne sont pas partis. Les négociations se poursuivent avec les autorités. Dans ce journal aussi, l'opposant camerounais Maurice Kamto en meeting hier à Paris. L'opposition au Congo réunie dans une nouvelle alliance. Et puis on est au Kenya où la réglementation se durcit encore un peu plus pour les sites de paris en ligne. Point faible, trop fort, le PSG a écrit la plus belle page de son histoire hier à Munich. Premier titre de Ligue des Champions pour le club parisien, victoire écrasante 5-0 contre l'Inter Milan qui n'a rien pu faire face aux joueurs de Luis Enrique, impuissant face au doublé de Désiré Doué, impuissant aussi face à celui qui a ouvert le score, Achraf Hakimi. Il faut dire que le joueur marocain signe une très belle finale qui n'est pas passée inaperçue chez ses supporters. Reportage à Casablanca, François Wimfer Kataji.
Dima Mghrib, Dima PSG.
Vive le Maroc, vive le PSG. C'est un peu le résumé de la soirée à Casablanca. À la 12e minute du match, le nom d'Hakimi résonne dans ce café de la capitale économique. Jihad salue la performance de l'enfant du pays.
Puisque c'est un Marocain, bien sûr, on est fiers de lui. On est fiers de ce but. On aimerait bien qu'il gagne, qu'il remporte la Champions League.
La suite, on la connaît. Large victoire de Paris. Et Hakimi, le Marocain né en Espagne, qui célèbre la victoire en se drapant des couleurs du Maroc.
Et Hakimi, ça reste une personne spéciale. Ça reste quelqu'un qui a choisi le Maroc déjà. Et ça fait plaisir. Et on le respecte. On l'adore et on l'aime.
Au coup de sifflet final, les clients, pourtant pas tous supporters du PSG, laissent exploser leur joie. Pour Mehdi, Hakimi est une vitrine pour le Maroc à travers le monde.
Il a bien joué sur tout le long du match. Ça a été exceptionnel, cette finale.
Achraf Hakimi avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais sans jouer. Cette fois, il est l'un des artisans de la victoire du PSG.
Il a marqué même un but. Donc, pour un défenseur, pour qu'il marque un but en finale de Champions League, comme c'est un exploit.
Porté par un Hakimi victorieux, le Maroc espère désormais rafler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à domicile. François Imfer Kataji, Casablanca, RFI.
Et voilà l'émotion et la joie des supporters du PSG. Après un parcours du combattant pour revenir au plus haut niveau, on y revient dans une demi-heure sur RFI. Édition spéciale juste après le journal de 6h, temps universel autour de Marion Kazanov. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site RFI.fr pour revivre en images cette soirée historique.
RFI.
La frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée. Déclaration hier soir du chef de la junte nigérienne. Le général Tiani s'exprimait à la télévision et il est notamment revenu sur le bras de fer avec la CNPC, la compagnie pétrolière chinoise. La Chine et ses sociétés jouent à un jeu trouble au Niger, dit-il. D'autant que l'entreprise avait jusqu'à hier pour résilier les contrats de ses employés chinois présents depuis plus de 4 ans dans le pays. Mais pour l'instant, Alexis Guilleux, aucun d'entre eux n'est parti.
Parmi les 127 employés chinois de la raffinerie de Zinder, 78 ingénieurs sont concernés par l'ultimatum. Dans son courrier du 8 mai, le Niger reproche à la Soraz, l'entreprise qui raffine le pétrole, de ne pas suffisamment engager de main-d'œuvre nigérienne, d'où sa demande d'expulsion d'une partie des techniciens chinois. Problème, la production pétrolière nigérienne dépend de ces techniciens puisque les employés nigériens n'ont pas encore toutes les compétences requises pour assurer la production. Face à ce constat, le ministre du pétrole a assoupli sa position et demandé que certains des techniciens chinois conservent leur poste. Refus net de la part de la CNPC, la compagnie pétrolière chinoise. Selon des sources proches de la Soraz, la Chine souhaite conserver une position dominante sur des postes clés liés à l'exportation du pétrole. Face à ce blocage, la CNPC a décidé de rapatrier l'intégralité de ses agents en Chine. Mercredi, les 127 ressortissants chinois ont tous embarqué dans un bus direction Niamey, mais ont été empêchés de quitter le territoire. Depuis, ces techniciens sont toujours présents présent au Niger et les négociations se poursuivent.
Alexis Guilleux est toujours à la télévision. Hier soir, le général Tiani a esquivé les questions sur les attaques djihadistes. Pour rappel, plus de 100 membres des forces de sécurité ont été tués dans le pays ces derniers jours. L'opposition en Centrafrique chahutée hier à Bangui. Les membres du bloc républicain pour la défense de la Constitution devaient se rassembler pour dénoncer entre autres la mauvaise gouvernance, mais c'était sans compter sur un groupe de jeunes qui s'y est opposé en organisant un match de foot sur le terrain où devait se tenir le meeting. Le BRDC promet d'autres actions dans les prochains jours. Il entend bien se présenter et l'emporter lors de la présidentielle au Cameroun en octobre prochain. Maurice Kamto tente de rassembler des soutiens. Hier, l'opposant tenait un meeting à Paris pour s'adresser à la diaspora. Reportage Amélie Tulé.
Cameroun 2025, changement, changement.
À cette diaspora camerounaise, Maurice Kamto promet de rouvrir les portes du pays.
Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux.
Il promet aussi de rétablir la binationalité, voire la plurinationalité, pour faire de la diaspora un levier de développement pour un Cameroun qu'il estime en état d'urgence.
Ce pays a besoin d'être sauvé, parce qu'il faut de l'eau potable.
2025 ne sera pas 2018. Quatre décennies de présidence Biya arrivent à terme. Maurice Kamto en est convaincu, mais il s'engage à traiter l'actuel chef de l'État avec respect.
Rien n'arrivera à M. Biya et sa famille.
L'opposant balaie tout débat sur sa candidature, lui l'avocat de formation, ancien ministre de la Justice.
Il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle.
Dans la foule, des Camerounais installés en France, d'autres venus pour l'occasion de Belgique, du Luxembourg ou encore d'Allemagne.
Parce que lui, il est celui-là qui va nous permettre d'ouvrir les routes pour rentrer au Cameroun.
On en a marre des 43 ans de manipulation, de marginalisation, donc il faut bien que ça change.
Parce qu'on veut que le Cameroun ait la même place qu'il a eue au niveau du Conseil des Nations. On était des pays émergents, mais aujourd'hui, on a une chute libre.
À cette diaspora, Maurice Kamto demande un soutien financier, de voter pour lui, voire même d'aller au Cameroun en octobre, surveiller le scrutin.
Reportage Amélie Tulet. Et de leur côté, les élites du RDPC, le parti au pouvoir, tenaient un meeting hier à Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, l'occasion d'appeler à une nouvelle candidature de Paul Biya et de lancer une levée de fonds. Le président de la République n'a pour l'heure pas fait connaître ses intentions. La présidentielle au Cameroun, c'est donc en octobre prochain. Au Congo, elle est prévue l'année prochaine. Et pour la préparer, l'opposition vient de lancer une nouvelle alliance, le Rassemblement des Forces du Changement. Elle comprend 8 partis politiques, dont le PSDC de Clément Mirassa et le RDD de Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Correspondance à Brazzaville, Loïcia Martial.
À genoux, devant un parterre de journalistes et ses propres collègues, Clément Mirassa, un des dirigeants de cette alliance, a demandé pardon au peuple congolais. Car les critiques vis-à-vis des opposants sont vives. Certains leur reprochent d'être opposants le jour et collaborateurs du pouvoir la nuit. Clément Mirassa a ensuite promis un changement.
Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Nous n'allons pas reculer devant cette machine et nous allons œuvrer pour que en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays.
De son côté, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, un autre dirigeant du Rassemblement des Forces du Changement, a affiché beaucoup d'espoir.
On se rassemble pour faire en sorte que les choses changent dans ce pays. Et on se rassemble parce qu'il faut bouger les lignes. On se rassemble parce qu'en face, en fait, il n'y a rien. Mais c'est parce que nous n'existions pas. Maintenant, nous voulons nous rassembler pour vraiment changer les choses. Et je pense qu'on va y arriver.
Le RFC n'a pas encore désigné ses organes dirigeants, ni sa stratégie pour l'élection présidentielle que le Congo doit organiser l'an prochain. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
L'opposition rassemblée aussi en Côte d'Ivoire hier. La coalition pour l'alternance pacifique, la CAP Côte d'Ivoire, a tenu un grand meeting à Yopougon. Plusieurs milliers de personnes étaient sur place pour demander à nouveau la révision de la liste électorale. Reportage à lire et à écouter sur RFI.fr. À l'écoute de RFI, 5h39 en temps universel. C'est un petit métal grisâtre utilisé principalement pour fabriquer des alliages et le sous-sol du Gabon en regard. orge. Le pays est même le deuxième producteur au monde avec plus de 7 millions de tonnes en 2023. Seulement voilà, Libreville veut créer plus d'emplois et oblige les producteurs à transformer le métal localement avant de l'exporter. Ils ont 3 ans pour se mettre en conformité. Une mesure, Yves-Laurent Goma, plutôt bien accueillie dans le pays.
Selon un spécialiste du dossier, le Gabon aurait dû prendre cette décision depuis plusieurs décennies. Mieux vaut tard que jamais, avance de son côté un retraité du ministère des Mines. 3 sociétés exploitent le manganèse au Gabon. Comilog, filiale du groupe français Eramet, est la plus ancienne et la plus importante. Aucune d'elles n'a réagi publiquement. Un expert du secteur estime que la décision du Gabon est difficile pour ces entreprises, mais que le délai transitoire de 3 ans accordé aux opérateurs est réaliste. Il est possible de monter une usine en 3 ans, selon cet expert qui affirme que les opérateurs pourront produire depuis le Gabon du manganèse métal, de l'aggloméré ou du silico-manganèse, 3 dérivés très demandés dans l'industrie sidérurgique. Dans le passé, les opérateurs ont pointé le manque d'infrastructures énergétiques au Gabon comme un frein à l'industrialisation du secteur minier. Un projet de barrage hydroélectrique de 600 MW et des centrales à gaz sont en cours d'étude, a rappelé une source proche du ministère des Mines. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
L'économie s'améliore un peu au Nigeria, c'est Moody's qui le dit. L'agence américaine a relevé la note du pays, elle passe à B3. Les réformes monétaires sont notamment saluées et l'inflation montre des signes d'accalmie. Cette amélioration de la note du pays signifie donc que le coût de la dette nigériane devrait s'alléger grâce à la baisse des taux d'intérêt. Coup dur, en revanche, pour les sites de paris en ligne au Kenya. Nairobi a décidé de changer les règles en matière de publicité. Depuis plusieurs semaines, en fait, les autorités serrent la vis contre l'industrie des jeux d'argent. Le mois dernier, déjà une 50aine de sites frauduleux avaient été fermés. Correspondance à Nairobi, Alban Tiroir.
Le 29 avril déjà, les autorités avaient annoncé une suspension de 30 jours de toute publicité liée aux jeux d'argent. L'organisme en charge de leur régulation pointait la prolifération et les conséquences socio-économiques dévastatrices de ces pratiques. Il dénonçait certains promoteurs de ces jeux qui les présentent au public comme un moyen de gagner rapidement de l'argent. Les autorités s'inquiétaient tout particulièrement des conséquences sur les plus vulnérables comme les mineurs qui peuvent tomber facilement dans l'addiction. Désormais, plus de suspension mais de nouvelles règles. Chaque publicité doit être approuvée par les autorités avant diffusion et contenir des messages de prévention. Toute publicité liée aux jeux d'argent est interdite près des écoles, institutions religieuses ou lieux fréquemment visités par des enfants. Ou encore, les célébrités ou créateurs de contenu ne doivent pas être utilisés pour faire la promotion de ces jeux d'argent. Sur les réseaux sociaux, ces nouvelles mesures sont parfois saluées, mais les influenceurs, eux, s'inquiètent d'un manque à gagner important. L'association kényane des créateurs de contenu a réagi dans un communiqué et dit soutenir un encadrement des contenus des influenceurs plutôt que leur interdiction. Alban Tiro à Nairobi, RFI.
Et c'est donc à Nairobi où il est tout juste 8h43, 7h43 à Paris que je vous laisse en compagnie de Marion Cazanov pour la suite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure et au nous, on passe tout de suite au journal des sports.